aujourd'hui de citoyenneté européenne et citoyenneté d'État ou citoyenneté nationale. Les deux termes sont, on verra, à peu près synonymes. Alors, je voudrais commencer par vous dire pourquoi je pense qu'il est très important de s'interroger aujourd'hui sur les notions de citoyen et de citoyenneté. Bien, je vois à cela deux raisons. La première, c'est que le mot citoyen, qui nous allons le voir, a toujours eu un sens précis. Ce mot de citoyen est mis un peu aujourd'hui à toutes les sauces et finit par perdre tout sens précis. Regardez par exemple sous forme d'adjectif, on parle d'une conduite citoyenne pour parler d'une conduite responsable, ou on parle d'une conduite non citoyenne pour parler d'une conduite irresponsable, de par exemple quelqu'un qui viendrait avec un énorme 4x4 dans Marmande. Voilà. Bon, il y a aussi une autre raison. Une autre raison, c'est qu'avec l'émergence de l'Union européenne, et puis avec la mondialisation, hein, on parle de plus en plus fréquemment de citoyenneté européenne, voire de citoyenneté mondiale. Donc, d'une part, le mot devient plus vague, et puis d'autre part, il indique l'appartenance à des communautés de plus en plus larges. Et c'est pourquoi je crois que la première chose à faire pour sortir un peu de cette confusion, pour apporter un peu de clarté, eh bien, c'est de rappeler le sens que le mot citoyen a eu jusqu'à une époque très récente. Et là, je vais faire que vous rappelez ce que vous avez appris, sans doute, ou vous êtes en train d'apprendre en philosophie. Vous savez que ce mot a son origine chez les Grecs, qui nous l'ont transmis par les Latins, et que un philosophe grec que vous connaissez, qui s'appelle Aristote, en a donné une définition très simple. Et je crois qu'il vaut encore, moyennant quelques aménagements, on verra, moyennant quelques précisions, mais qu'il vaut encore aujourd'hui. Voilà ce qu'il écrit. Il dit un citoyen au sens plein, on verra que c'est important, ne peut pas être mieux défini que par la participation à une fonction judiciaire et à une magistrature. Et un peu plus loin, il donne une définition qui est équivalente, mais qui est encore un peu plus claire, hein, qu'il dit un citoyen, c'est celui qui a un droit égal à être gouverné et à gouverner. Être gouverné et gouverner en même temps. Et pour Aristote, bien, ce citoyen, c'est l'habitant d'une cité, non pas de n'importe quelle cité, mais de celle qui reconnaît que les hommes sont des êtres libres et égaux en droit et capables de s'autogouverner. Alors quand je dis les hommes, vous savez qu'à l'époque des Grecs, c'est à prendre au sens mal du terme, hein, puisque les citoyens ne sont que les hommes, les femmes ne sont pas citoyennes, les esclaves non plus, bien sûr, hein, et les métèques non plus, qui sont les étrangers résidant à Athènes, hein, par exemple. Alors cette définition, je l'ai dit, eh bien, elle a été celle du citoyen jusqu'à nos jours. Par exemple, ceux qui, parmi vous, étudient Rousseau, qui connaissent Rousseau, hein, savent que c'est la définition qu'on trouve chez Rousseau, puisque chez Rousseau, vous avez la distinction entre le sujet, le sujet c'est celui qui obéit à la loi, hein, et puis le citoyen, qui est le sujet, mais non plus seulement en tant qu'il obéit à la loi, mais en tant qu'il fait la loi, hein, qu'il participe à l'autorité souveraine. Et vous voyez que Rousseau, donc, ne distingue le sujet et le citoyen que pour les confondre en réalité. Le sujet et le citoyen sont une seule et même personne vue sous deux points de vue. Alors ces définitions d'Aristote, de Rousseau, hein, on ne les retrouve pas seulement dans les écrits des philosophes, auquel cas ça n'aurait pas grand intérêt, mais elles sont vraiment, ces définitions, au cœur de nos institutions. Hein. Je veux dire par là que les États, ce qu'on appelle les États-nations modernes, hein, sont pour la plupart des États démocratiques qui sont composés non seulement de sujets, mais de citoyens qui participent à l'élaboration de la loi. Hein. Puisque vous savez, et je voudrais que vous compreniez bien ça, parce que c'est un point très important, hein, vous savez qu'il ne suffit pas de jouir d'un certain nombre de droits pour être un citoyen. Il ne suffit pas, par exemple, d'avoir des droits civiques. Les droits civiques, c'est par exemple le droit de se déplacer librement dans l'espace, hein, de fonder une entreprise, d'avoir une religion de son choix. Il ne suffit pas non plus d'avoir des droits sociaux. Les droits sociaux sont des droits plus tardifs, qu'on trouve dans les États modernes, à partir de la fin du XIXe au XXe siècle. Par exemple, recevoir une indemnité en cas de maladie ou de chômage, etc. Donc pour être citoyen, il faut avoir beaucoup plus que des droits civiques et sociaux, il faut avoir des droits politiques. Le droit de vote et le droit d'éligibilité, et puis tous les droits qui vont avec. Pensez au fait que les immigrés, par exemple, dans nos sociétés, les immigrés ont évidemment des droits civiques, ils ont des droits sociaux, mais ils ne sont pas des citoyens au sens plein du terme, comme le disait Aristote, c'est-à-dire qu'ils ne participent pas à l'autorité souveraine, ils ne votent pas, etc. Alors, je n'ajouterai à cela, à ce rappel, qu'une chose que vous connaissez, c'est que nous vivons, certes, en gros, sur cette définition grecque du citoyen, hein, mais il ne faut pas oublier que la citoyenneté proprement moderne, la citoyenneté qui a pris naissance à partir du XVIIIe siècle, bien, cette citoyenneté a des particularités fortes par rapport à la citoyenneté grecque. Hein, et j'en rappelle deux que vous connaissez. Hein. La première, c'est que cette citoyenneté passe par la représentation, alors que les Grecs fonctionnaient plus ou moins en démocratie directe. Vous imaginez bien qu'à 60 millions d'habitants, on ne peut pas fonctionner en démocratie directe. Donc c'est une démocratie représentative. Vous êtes des citoyens, vous participez au pouvoir, mais par l'intermédiaire de députés que vous élisez. Et d'autre part, bien sûr, j'y ai fait allusion tout à l'heure, les États modernes ont instauré progressivement le suffrage universel que ne connaissaient évidemment pas les Grecs. Je terminerai ce rappel en disant qu'il y a un lien étroit, vous le voyez, jusqu'à une certaine époque, jusqu'à une époque très récente, entre l'État-nation et puis la citoyenneté. Les citoyens, pendant longtemps, n'ont existé que dans le cadre d'un État démocratique, un État souverain, un État délimité par un territoire précis, et puis un État caractérisé par un passé commun, des traditions communes. Souvent, je dis souvent, mais pas toujours, une langue commune. Pourquoi pas toujours? Parce que vous savez qu'il peut y avoir des États, ce n'est pas le cas de la France, ou très peu, mais c'est le cas par exemple de l'Espagne ou de la Suisse, des États qui sont multilinguistiques. Alors, on comprend donc à partir de ces rappels ce qu'a pu représenter récemment l'idée de citoyenneté européenne, une grande nouveauté qui va coexister avec la citoyenneté d'État, dont je viens de rappeler rapidement en quoi elle consiste. Et je voudrais rappeler donc dans un deuxième temps comment ce changement s'est produit. Là, je vais faire appel un petit peu à des connaissances juridiques. C'est un peu ingrat, les connaissances juridiques, mais je crois qu'il faut faire le détour par les connaissances juridiques, même si c'est pas seulement, vous le verrez, une question juridique. Donc, j'ai dit que des sociétés en Occident s'étaient organisées peu à peu sous la forme d'États-nations. Donc, des États-nations composés de citoyens. Et vous savez que pendant longtemps, l'État-nation a été le cadre où s'est développée la démocratie. C'est-à-dire un rapport tout nouveau entre les hommes, quelque chose de tout nouveau dans l'histoire, des hommes qui décident de se traiter comme des êtres libres et égaux en droit. Mais vous savez qu'en même temps, cet État-nation a été une réalité très contradictoire, à la fois positive et négative, puisque les États-nations ont débouché en Europe sur le nationalisme et sur la guerre. Vous savez qu'au XXe siècle, tout le monde le sait, nous avons connu les deux guerres les plus terribles qu'ait connues l'humanité. Nous avons connu aussi les deux plus grands totalitarismes, le nazisme et puis le communisme stalinien ou chinois. Et donc, c'est à la suite de cette catastrophe au XXe siècle qu'a été fondée l'Union européenne, donc après la Seconde Guerre mondiale, qui avait pour objectif, dans un premier temps, d'éliminer le risque de guerre en Europe, mais aussi de redresser des États qui sortaient de la guerre économiquement, vous savez, complètement épuisés, mais aussi, même s'ils étaient victorieux, qui sortaient de la guerre politiquement affaiblis, par exemple affaiblis face à un autre des vainqueurs, qui était l'URSS, qui faisait partie du camp des vainqueurs. Et c'est dans ce contexte, donc, que progressivement est née l'idée d'une union politique entre des États souverains, c'est-à-dire des États qui restent indépendants, mais qui partagent dans certains domaines leur souveraineté, non pas pour disparaître, mais au contraire pour renforcer, pour développer cette souveraineté. Et même si on a pu rêver d'un État européen, par exemple de l'équivalent des États-Unis d'Europe, vous savez sans doute que jamais cette Union européenne n'a été un État fédéral sur le modèle des États-Unis, ni d'ailleurs non plus une simple alliance d'États. Parce que la politique de simple alliance d'États indépendants, c'est justement ce qui avait conduit à la guerre. Donc pour résumer tout ceci, l'Union européenne est une réalité totalement nouvelle, inédite, d'un troisième type, une réalité complexe, c'est-à-dire des États-nations qui restent souverains, la France, l'Allemagne, la Lituanie, Chypre, etc., et qui confient à une instance supranationale, qui est à Bruxelles, certaines décisions dans des domaines qui sont des domaines vitaux. Alors vous savez qu'au début, ces domaines étaient relativement limités. Ils sont aujourd'hui beaucoup plus larges. Je vous donne un exemple dont on parle en ce moment. Aujourd'hui, par exemple, la gestion des ressources de la mer. Vous avez vu ce qui se dit en ce moment sur le thon rouge. La gestion des ressources de la mer, c'est quelque chose qui ne peut plus être laissé aux États nationaux, et en particulier pas aux États qui ont des pêcheurs, la France, l'Espagne, etc. C'est une question trop importante, donc c'est une question qui est traitée au niveau européen, et c'est là peut-être qu'il y a le plus de chances d'éviter l'épuisement des bancs de poissons, même si vous avez vu, c'est pas quelque chose de gagné. J'écoutais en venant là tout à l'heure qu'on n'est pas encore parvenu à un accord, ni au niveau européen, ni au niveau mondial, sur cette question. Mais vous savez en même temps que même si ces domaines sont de plus en plus nombreux, les domaines qui relèvent de l'Union européenne, il y a quantité de domaines qui relèvent toujours du niveau national. On appelle ça d'un terme épouvantable, qui s'appelle la subsidiarité. C'est le fait que certains problèmes doivent être traités, disons, au niveau de Bruxelles, au niveau de Paris, au niveau de Bordeaux pour la région et au niveau de Marmande, par exemple. Donc, par exemple, l'organisation de l'éducation, le système des retraites, la sécurité sociale, la fiscalité, même s'il y a dans ces domaines des tentatives d'harmonisation, sont des domaines qui relèvent du niveau national. Alors, je terminerai cela, ce rappel sur l'Europe, pour vous dire que pour prendre ces décisions en commun, dans des domaines vitaux qui ne pouvaient plus être traités au niveau national, bien, vous savez que ces États-nations européens ont dû construire un début d'Europe politique, c'est-à-dire ont dû construire des institutions que vous connaissez, la Commission européenne, le Conseil des ministres, le Parlement européen, le Conseil européen, la Cour de justice. Et c'est dans le cadre de cette construction d'une Europe, d'un début d'Europe politique, qu'est apparue progressivement l'idée de citoyenneté européenne. Donc je vais vous rappeler, peut-être certains d'entre vous le savent, en quoi consiste la citoyenneté européenne, voir comment elle est née, comment elle s'articule avec la citoyenneté nationale, et puis je terminerai en disant ce qu'elle n'est pas. Vous verrez à quel point c'est important de bien savoir aussi ce qu'elle n'est pas et ce qu'elle pourrait devenir. Donc commençons par cette citoyenneté européenne. Bien, elle apparaît en 1992. Dans un des traités dont vous connaissez le nom, qui est constitutif de l'Union européenne, qui s'appelle le traité de Maastricht, qui a été adopté par référendum, j'y reviendrai, dans certains pays, dans ceux qui connaissent le référendum. Et l'article 8 de ce traité, bien, il définit la citoyenneté européenne très précisément comme une citoyenneté qu'on pourrait appeler de superposition ou dérivée. Ça, c'est un premier point à bien retenir. Qu'est-ce que ça veut dire de superposition ou dérivée ? C'est que chacun de vous est un citoyen européen, mais il est un citoyen européen parce qu'il est un citoyen français, parce qu'il est un citoyen allemand, parce qu'il est chypriote, parce qu'il est lituanien, etc. Regardez la différence avec la France. En France, vous n'êtes pas français parce qu'Aquitaine, Vous êtes aquitain parce que français. Ce n'est pas la même chose. Hein. C'est-à-dire que la région aquitaine ou la région Midi-Pyrénées fait partie de l'ensemble français. Donc je crois que c'est très important de voir que cette citoyenneté est une citoyenneté dérivée. Donc il n'y a pas de citoyen européen sans citoyenneté nationale. Et je pense que vous comprenez pourquoi. C'est parfaitement logique avec la définition que j'ai donnée de l'Union européenne plus haut, c'est-à-dire elle n'est pas un État. Alors cela ne veut pas dire, hein, cela ne veut pas dire que les citoyens des États membres, je terminerai par là tout à l'heure, hein, ne participent pas à l'élaboration des lois européennes et à la prise de décision. On en parlera. Mais ils y participent, vous verrez, en tant que citoyens de leur État. Mais avant de voir ça, je vais vous dire très rapidement en quoi consiste la citoyenneté européenne. C'est très simple à présenter. Elle consiste en 4 ou 5 droits. 4 ou 5 droits qui sont dans un article très, très court. Et ces droits, ce sont essentiellement des droits politiques. Au moins 2 d'entre eux, les autres en rapport indirect avec les droits politiques. Ce sont des droits politiques, vous allez voir, assez minces. Ça ne consiste pas en grand-chose, bien que ce soit important. D'abord, vous avez, premier droit, le droit de vote et d'éligibilité aux élections municipales dans un pays européen autre que le vôtre lorsque vous y séjournez depuis un certain temps. Et puis l'autre droit, c'est le droit de participer au vote et le droit d'être élu aux élections européennes, mais pas seulement dans votre pays, hein, mais quand vous résidez dans un autre pays européen. Alors vous pourriez penser, certains d'entre vous doivent dire, mais c'est pas grand-chose là, c'est pas grand-chose la citoyenneté européenne. Mais essayez de prendre un peu de recul, hein. Pensez à vos grands-parents, ou à vos arrière-grands-parents. Hein. Moi je pense à mon père qui s'est battu contre les Allemands, hein, qui a été blessé en Allemagne, etc. Qu'est-ce que ça veut dire? Quelque chose qui était impensable dans l'Europe. Hein. Ça veut dire qu'aujourd'hui, un citoyen français peut devenir membre d'un conseil municipal allemand. Que dans certains pays, il peut devenir maire, bien qu'il soit français. C'est quelque chose, c'est une véritable révolution. Hein. On n'aurait pas pu imaginer ça au début du siècle. Alors, je me contente d'énumérer les 3 autres droits. Hein. J'ai parlé de 5, là j'en ai cité 2. Les 3 autres droits qui définissent la citoyenneté européenne, il y a le droit de circuler et de séjourner librement dans l'Union européenne, même si vous ne travaillez pas, si vous allez en Allemagne, en Irlande, etc. Donc c'est le droit d'être traité sur ce point, hein, exactement comme les citoyens de l'État dans lequel vous résidez. Hein. Il y a aussi le droit, des droits un peu plus complexes, c'est le droit lorsque vous êtes dans un pays extra-européen, mettons un petit pays extra-européen, où il n'y a pas de représentation diplomatique de la France, mais vous avez le droit d'être protégé par les autorités politiques, par exemple par l'ambassade d'Allemagne ou par l'ambassade d'Angleterre, etc. Et puis vous avez un dernier droit, je le signale sans le commenter, c'est le droit de pétition devant le Parlement européen et le droit de vous adresser au médiateur européen si vous estimez avoir été maltraité par une institution européenne. Bon, je n'insiste pas sur ces 3 droits, retenez seulement les 2 premiers, hein, je crois qu'ils sont importants. Alors je terminerai en disant qu'il est à noter que dans ce traité de Maastricht, hein, on en parlera tout à fait à la fin, il y a une petite note qui dit que cette liste n'est pas limitative. C'est-à-dire que le Conseil européen, sur proposition de la Commission, après consultation du Parlement, hein, peut inclure de nouveaux droits dans la citoyenneté européenne. Bon, voilà, à strictement parler, ce qu'est la citoyenneté européenne, cette citoyenneté, je dis bien greffée, hein, dérivée, seconde, hein, par rapport à la citoyenneté d'État ou à la citoyenneté nationale. Alors certains d'entre vous pourraient évidemment être déçus, hein, et puis me faire remarquer que j'ai oublié des choses importantes. Hein. Me faire penser que j'ai oublié des droits fondamentaux, hein, qui sont accordés à tous les Européens, et parmi ces droits, même des droits politiques, hein, puisque certains d'entre vous, qui sont peut-être majeurs, ont voté il y a quelques mois, pour les élections européennes, hein, où vous voterez la prochaine fois, donc le droit d'élire vos représentants au Parlement européen. Je n'en ai pas parlé, hein. Je n'en ai parlé que lorsque vous êtes dans un autre pays que la France, hein. Alors c'est pourquoi je voudrais vous dire maintenant ce que n'est pas la citoyenneté européenne. Je crois que c'est aussi important de savoir ce que n'est pas la citoyenneté européenne, et je me contenterai de deux remarques. La première remarque, comme nous le disait Aristote, il ne faut pas confondre la citoyenneté avec le fait de jouir d'un ensemble de droits. Donc, en tant que membre d'un pays européen, vous avez quantité de droits qui sont définis au niveau européen, mais ce ne sont pas des droits politiques, hein. Il y en a eu dès le début de l'Europe, et puis ces droits se sont enrichis progressivement. Vous savez peut-être qu'il y a un grand texte dans le traité actuel qui s'appelle le traité de Lisbonne. Vous avez la charte des droits fondamentaux. Vous pouvez lire, par exemple, sortez au CDI la charte des droits fondamentaux, vous verrez les droits, par exemple, dans les articles 1 à 5, vous avez des droits fondamentaux. Hein. Pour prendre un seul exemple, la protection du consommateur. Vous savez qu'au niveau européen a été voté il y a un an, deux ans, un programme concernant la chimie, qui s'appelle le programme REACH. Et dans ce programme, il y a toutes sortes de protections par rapport aux dangers chimiques, hein, aux produits chimiques que nous consommons tous les jours. Mais, je rappelle, et voilà la fin de ma première remarque, qu'il ne suffit pas d'avoir des droits pour être un citoyen. Donc voilà pourquoi ces droits ne figurent pas dans la citoyenneté européenne. Un citoyen au sens plein, je rappelle la définition d'Aristote, hein, c'est celui qui jouit de droits politiques. Donc voilà la première raison pour laquelle est limitée la citoyenneté européenne. Il y en a une deuxième. Alors, la deuxième, bien, vous pourriez me faire remarquer, bien sûr, hein, pourquoi je n'ai pas parlé de citoyenneté européenne à propos de l'élection des députés au Parlement européen. Bien, pour une raison fondamentale, et là je crois qu'on entre vraiment dans le cœur du sujet, qu'il faut bien la comprendre, hein, c'est que les citoyens des pays européens élisent leurs représentants au Parlement européen, vous le savez, sur une base nationale, et non pas ni le même jour, forcément, ni dans la même élection, ni de la même manière. Hein. Donc ils élisent leurs représentants sur la base de l'Allemagne, de la France, etc. Et le traité qui a été un tout petit peu modifié, l'article du traité qui parle du Parlement européen, il disait ceci, il disait que le Parlement est composé, écoutez bien, de représentants des peuples, des États réunis dans la communauté. Alors maintenant, la formule a été un tout petit peu modifiée, on voit apparaître l'idée de citoyen européen, mais ça ne change rien à la réalité. Hein. La réalité des choses, c'est que l'élection se fait sur une base nationale. Alors vous pourriez vous demander, mais pourquoi l'élection se fait sur une base nationale ? Pourquoi ne votons-nous pas tous le même jour, puisque nous sommes des membres, des citoyens de l'Europe, nous avons une citoyenneté européenne, pourquoi ne votons pas le même jour ? Bien, pour une raison fondamentale que vous connaissez, parce que jusqu'ici, ça peut changer, hein, mais jusqu'ici, les peuples européens ont estimé que l'Union européenne ne pouvait pas être un État. Donc, pour le dire autrement, hein, parce qu'il n'existe pas encore de peuple, ce qu'on appelle « démos » en grec, hein, qui a donné le mot « démocratie », il n'existe pas encore, hein, de peuple européen au singulier, malgré tous les rapprochements entre les peuples, hein, malgré les échanges, malgré la circulation en Europe, malgré peut-être le sentiment que vous avez d'être non seulement marmandais, d'être non seulement aquitain, d'être non seulement français, mais d'être européen. Vous avez, quand vous rencontrez un jeune anglais, un jeune allemand, vous n'avez pas le même rapport à lui qu'avec un jeune japonais ou chinois, etc. Vous avez vraiment un sentiment de faire partie d'une communauté, de destin, hein, avec les Européens. Alors, je voudrais développer un tout petit peu ça en disant que voilà la particularité de l'Europe. Hein. Parce que l'Europe n'est pas un État, et là, ces institutions ont de fortes particularités. Je n'en citerai qu'une, hein, que vous connaissez peut-être. Là, je vais faire un tout petit peu de droit. C'est ce qu'on appelle la double légitimité. Vous en avez peut-être entendu parler, et je crois qu'il est important de s'arrêter sur ce qu'on appelle la double légitimité pour comprendre ce qu'est la citoyenneté européenne et comment elle s'articule avec la citoyenneté nationale. Qu'est-ce qu'on appelle la double légitimité ? Eh bien, dans une internation comme la France, vous savez que la loi est faite par les représentants du peuple que vous avez élus, députés et sénateurs, donc qui votent, c'est vous qui votez la loi par leur intermédiaire. Les Français, de cette manière, sont des citoyens gouvernants et gouvernés à la fois, comme le disait Aristote. Mais au niveau de l'Union européenne, vous l'avez peut-être étudié en histoire, en instruction civique, hein, il n'en va pas de même, puisque l'Union européenne est une union d'États souverains. Une union d'États souverains, et donc les députés ne peuvent pas faire à eux seuls la loi. Et vous savez sans doute qu'il y a deux pouvoirs législatifs. Là, je rentre un peu dans le détail des institutions européennes. C'est-à-dire quand la Commission européenne propose une loi, elle est votée à Strasbourg par vos représentants. Et puis, en même temps, on appelle ça la co-décision, hein, elle est votée par le Conseil des ministres, où ne siègent pas vos représentants, où siègent des représentants très indirects, hein, qui sont les ministres français, allemands, lituaniens, etc. Donc c'est ce qu'on nomme la co-décision, une procédure assez lourde, hein, complexe, mais indispensable. Pourquoi je dis indispensable ? Imaginez ce qui se passerait si une loi proposée par la Commission européenne était votée seulement par le Parlement européen. Mais en Europe, il y a de grands pays. Et puis il y a de tout petits pays. Il y a Chypre, il y a la Lituanie, il y a Malte. Et vous imaginez à quel point les représentants de ces petits pays seraient complètement noyés dans le Parlement européen. Ils ne compteraient pour rien, hein, face à l'énorme cohorte des députés allemands, français, espagnols, etc. Donc c'est pour éviter cela, c'est pour que ces petits pays ou ces pays moyens aient une existence qu'il y a deux logiques. Il y a une logique majoritaire. Hein, la loi est adoptée selon une logique majoritaire par le Parlement européen. Et puis elle est adoptée selon une autre logique par le Conseil des ministres. C'est-à-dire que dans le Conseil des ministres, la représentation des pays est beaucoup plus égale. Hein, et Malte ou Chypre ou la Lituanie ne sont pas noyés. Hein. Donc, pour le dire autrement, nous avons inventé un système très complexe qu'on appelle la double légitimité, hein, qui respecte la volonté des citoyens des pays européens, selon une logique majoritaire, hein, sans pour autant faire disparaître les États. C'est un équilibre complexe, hein, pas facile à comprendre. Vous savez que les Européens ne le comprennent pas toujours, hein, mais qui a le prix à payer pour une union qui est composée d'États souverains. Alors, je résume, avant d'en venir à la dernière partie de cet exposé. Si le droit de vote, hein, si vous avez bien compris, le droit de vote et d'éligibilité au Parlement européen ne fait pas partie de la citoyenneté européenne au sens strict. Pourquoi ? Parce que ce sont les citoyens français, allemands, espagnols qui votent lors des élections européennes, hein, et non les citoyens d'un État qu'on appellerait l'Europe. Hein. Mais cela n'empêche pas, et je voudrais terminer par là ce deuxième point, cela n'empêche pas les citoyens d'avoir un pouvoir de plus en plus grand sur les décisions prises par les instances européennes. Alors je voudrais insister rapidement sur ce point et donner quelques exemples. Vous savez que l'Union européenne, vous l'avez étudié dans vos cours d'histoire, elle a été d'abord construite de manière très technocratique, pas du tout démocratique. Et on voit mal comment il aurait pu en être autrement à la sortie de la guerre. Mais peu à peu, les citoyens des pays européens ne se sont pas contentés d'avoir des droits. Ils ont demandé d'être des citoyens actifs et pas seulement passifs. Ils ont exigé des pouvoirs. Alors je rappelle quelques-uns de ces pouvoirs, quelques dates clés. J'en rappelle trois seulement. 1979, c'est la décision du suffrage universel au Parlement européen, l'instauration du vote que vous connaissez, hein, et le renforcement du Parlement qui en a résulté. Hein. Vous avez vu, par exemple, là, que la nouvelle Commission vient d'être installée et qu'elle a été investie, comme on dit en droit, hein, par le Parlement européen. Il y a, par exemple, eu ensuite les divers référendums, hein, J'ai cité tout à l'heure Maastricht, hein, le référendum, le traité de Maastricht a été adopté par une procédure démocratique, hein, qui donnait beaucoup plus de place aux citoyens européens. En 2002, en 2005, pardon, vous le savez que vos parents ont voté sur un projet qui a été d'ailleurs refusé par la France, hein, le traité constitutionnel. Là encore, on voit la montée en puissance des pouvoirs des citoyens. Et puis, je donnerai un dernier exemple, hein, le traité de Lisbonne, qui vient d'être adopté. Le traité de Lisbonne, c'est l'ensemble des traités qui régissent l'Europe. C'est un peu notre constitution, même si ce n'est pas une constitution au sens propre. Hein. Dans le traité de Lisbonne, vous avez trois ou quatre points importants. Hein. Vous avez, par exemple, hein, des mesures qui sont prises pour que les parlements nationaux, hein, pas le Parlement européen, hein, pour que les parlements nationaux contrôlent les lois qui sont faites à Bruxelles. C'est une procédure très, très complexe, mais disons, les parlementaires français ont le droit de faire remarquer à la Commission, par exemple, qu'une loi viole la subsidiarité, hein, qu'elle prend position sur quelque chose qui doit être traité plutôt à Marmande ou à Bordeaux ou à Paris. Hein. Le traité de Lisbonne aussi définit l'Union européenne non seulement comme une démocratie représentative, mais comme une démocratie participative. Qu'est-ce que ça veut dire ? Que les instances européennes, hein, les dirigeants européens, doivent dialoguer avec la société civile, avec les ONG. Si vous suivez un peu l'actualité, vous savez que c'est le cas. Enfin, et je crois que c'est la mesure la plus importante, hein, dans le traité de Lisbonne, il y a quelque chose qui s'appelle une initiative citoyenne. Qu'est-ce que c'est que cette initiative citoyenne ? Il suffit qu'il y ait 1 million de personnes en Europe dans un nombre significatif d'États. Alors, on ne précise pas le nombre d'États, mais ça veut dire, comme on est 27, ça veut dire une bonne dizaine au moins, hein, sans doute. Il suffit qu'il y ait 1 million de personnes qui demandent à ce qu'il y ait une loi sur tel ou tel dans tel ou tel domaine, pour que la Commission, on ne parle pas de référendum, hein, mais ça revient à peu près à ça, pour que la Commission mette à l'ordre du jour, fasse un projet de loi et peut-être fasse un référendum. Alors je crois que c'est quelque chose de vraiment très important. Hein. Je résumerai en disant que on voit que l'Union européenne aujourd'hui est beaucoup plus démocratique qu'elle n'était au moment de sa naissance. Vous voyez, malgré la faible définition du citoyen européen, c'est vrai que, de manière juridique, hein, le citoyen européen, la citoyenneté européenne, c'est juste deux ou trois petits droits, hein, encore des droits qui sont importants. Hein. Mais par ailleurs, hein, sur la base nationale, les citoyens peuvent avoir un pouvoir sous la forme du référendum, sous la forme du vote ou sous la forme de vote au Parlement ou sous la forme de l'initiative citoyenne, un pouvoir très important. J'insiste sur le fait que cette démocratie est quand même très indirecte et qu'elle ne ressemble pas à la démocratie de chacun des États-nations. Pourquoi elle est indirecte ? Eh bien, je l'ai dit, d'une part parce que les citoyens participent aux décisions, hein, prises par les instances de l'Union européenne, non pas en tant que citoyen européen, mais en tant que citoyen français, anglais, allemand. Et puis à cette différence, s'en ajoute une autre. Hein, ils agissent aussi sur les décisions de manière très indirecte par leurs représentants nationaux. Quand, par exemple, au Conseil européen, le président de la République française propose quelque chose, ben, c'est vous, très indirectement, parce que le président de la République française a été élu démocratiquement, hein, c'est vous qui prenez la décision. Ou bien quand le Parlement national français, hein, fait remarquer qu'une loi doit être modifiée, c'est vous, très indirectement, hein, qui intervenez. Donc, on le voit, hein, l'intervention des citoyens est à la fois directe, hein, comme dans un État-nation, avec cependant une différence, hein, c'est que vous intervenez toujours en tant que citoyen de votre État, et puis elle est à la fois très indirecte. Hein. C'est pourquoi le traité de Lisbonne parle d'une représentation indirecte. Alors, je voudrais terminer, dans les 5 minutes qui restent, je voudrais terminer sur le futur. J'espère que vous avez compris. C'est un peu complexe, la citoyenneté européenne. C'est un sujet assez juridique. J'espère quand même que vous avez à peu près compris l'essentiel. Sinon, j'éclairerai ça. Mais vous savez que le futur, évidemment, n'est pas écrit à l'avance. Et que le futur est ouvert et qu'on peut imaginer diverses évolutions. En gros, on considère qu'il y a quatre positions, quatre grandes voies possibles. Je vais les énumérer et puis dire un peu ce que j'en pense personnellement, et cela pour ouvrir le débat. D'abord, il y a ceux qui pensent que l'Union européenne, telle qu'elle est actuellement, atteint un état d'équilibre, c'est-à-dire qu'on n'ira jamais beaucoup plus loin. C'est-à-dire qu'on n'aura pas beaucoup d'élargissements, peut-être quelques petits pays des Balkans, hein, mais ça n'ira pas trop au-delà, 27, 28, 29 pays, hein, et en même temps, qu'il n'y aura pas d'approfondissement, c'est-à-dire qu'on n'ira pas vers un État fédéral. Vous savez qu'on parle, regardez en ce moment, hein, aujourd'hui même, demain, on parle à propos de la Grèce, là par exemple, de gouvernement économique. Bien sûr, il peut y avoir un approfondissement sous forme d'un gouvernement économique, mais il y a quand même beaucoup de gens qui doutent qu'on aille vers des États-Unis d'Europe, qu'on soit un État fédéral, exactement comme l'Allemagne est un État fédéral aujourd'hui, ou comme les États-Unis le sont. Bon, ça, c'est une première position. Il y a l'autre position, la deuxième, au contraire, qui pense que la citoyenneté européenne, qui, vous l'avez vu, est encore assez peu développée, cette citoyenneté européenne, bien, pourrait se développer et devenir l'équivalent de la citoyenneté nationale, ce qui voudrait dire qu'on serait dans un État fédéral, que peut-être dans 50 ans, dans 100 ans, on serait un pays comme les États-Unis, la Chine, le Brésil, etc., c'est-à-dire qu'on serait vraiment un État fédéral. Il y a une troisième position, un peu difficile à comprendre, des gens comme Jacques Delors, qui est un ancien président de la Commission, il y a des gens qui pensent, c'est une position plus complexe, il y a des gens qui pensent qu'on pourra être un jour une fédération d'États-nations. Pas seulement une union d'États-nations, comme je l'ai dit tout à l'heure, mais une fédération d'États-nations, c'est-à-dire qu'on ne sera pas un État fédéral, mais on ne sera pas non plus ce qu'on est actuellement. On sera quelque chose d'un peu plus intégré politiquement. Et dans cette perspective, on considère donc que même si les Européens ont un passé et une culture commune, dans cette perspective, on considère qu'ils ne constitueront pas avant longtemps une seule nation. De la Grèce à la Lituanie, de la Grèce au Portugal, etc. Et on considère quand même, les partisans de cette troisième position, ils considèrent quand même qu'il n'est pas nécessaire pour être une fédération, qu'il n'est pas nécessaire pour qu'il y ait une citoyenneté européenne forte, il n'est pas nécessaire qu'existe une nation avec une culture et une langue commune. Il suffirait que les Européens soient d'accord sur des valeurs et sur des principes fondamentaux. Et il y a un philosophe allemand que vous connaissez peut-être, qui s'appelle Habermas, Jürgen Habermas, qui dit qu'il pourrait exister une sorte de patriotisme constitutionnel. Donc un patriotisme qui aurait ses racines non plus dans l'attachement à une nation particulière, mais dans une communauté de valeurs et de principes. Et pour ceux qui défendent une telle position, bien, ils voient arriver un processus d'unification des États européens qui ferait naître progressivement un démos européen, un peuple européen. Par exemple, on voterait tous le même jour sur des listes communes, par exemple, au Parlement européen. Donc il voit arriver aussi un espace public européen qui, pour l'instant, n'existe pas. Vous savez que les partis sont sur base nationale. Les débats sont largement sur base nationale. Hein, mais il pourrait y avoir des partis, vraiment des partis européens, et puis un débat, alors dans quelle langue le problème se pose, etc. Et puis, il voit arriver aussi, peu à peu, des institutions qui donneraient de plus en plus de pouvoir aux citoyens, bref, un peu comme dans une nation, hein, par exemple, une démocratie participative, etc. Et puis enfin, il y a une quatrième position. Cette quatrième position, c'est ceux qui rêvent, parce que je crois que c'est quand même un rêve, hein, d'une citoyenneté qui serait complètement déconnectée, non seulement de la citoyenneté nationale, mais qui serait déconnectée aussi de la citoyenneté européenne, qui serait une citoyenneté déconnectée de toute idée de frontières et de territoires. Alors je pense en particulier à ceux qui militent pour donner le droit de vote pour toutes les élections, hein, pas seulement les municipales, hein, aux immigrés extra-européens, pas aux Européens, pas aux Allemands résidant en France, hein, mais aux immigrés extra-européens. Et dans une telle perspective, hein, vous voyez qu'on va au-delà même de l'idée d'Europe comme un État fédéral ou comme une fédération d'États-nations, on va au-delà même de l'idée d'État, hein, puisque le territoire, à ce moment-là, n'est plus un territoire politique, hein, la citoyenneté n'est plus attachée à une unité politique, simplement on vote parce qu'on se trouve là, hein, dans un espace donné. Hein. Et cette dernière position, vous le savez, elle va souvent en même temps avec l'idée d'une citoyenneté mondiale, qui est quand même assez très, qui est pour l'instant très utopique. Hein. Pourquoi ? Parce que je rappelle qu'il ne suffit pas d'avoir des droits. Vous avez des droits au niveau mondial. Hein. Ces droits, ils sont définis par l'ONU, hein, les droits de l'homme. Hein. Mais vous n'avez pas de pouvoir au niveau mondial. Là, il n'y a pas de Parlement européen. Alors peut-être qu'en l'an 3018, ça existera. Hein, mais pour l'instant, on n'en est pas là. Alors que peut-on penser de ces quatre positions ? Je vais terminer par là, en prenant deux minutes avant d'ouvrir le débat. C'est une position personnelle, hein, c'est-à-dire que chacun se détermine en fonction de ce qu'il estime possible, de ce qu'il estime souhaitable, en fonction de ses choix politiques. Donc en quoi consiste, comment peut-on juger ces quatre positions ? Voilà ma position, hein, ce n'est pas la seule. Il me semble que la première position, elle peut paraître un peu conservatrice, c'est-à-dire que se contenter de ce qui est. La deuxième position, l'État fédéral, qu'on puisse aller vers un État comme les États-Unis, elle me semble aujourd'hui, elle me semble plus du tout d'actualité. C'est-à-dire qu'elle me semble très irréaliste, tout particulièrement après l'agrandissement. Vous savez, plus on est nombreux, moins il y a de chances pour qu'on fasse un État uni. Hein. Il y a un grand juriste qui s'appelle Renaud de Housse, qui est un juriste belge, hein, mais qui travaille en France, qui a écrit un livre qui s'appelle « La fin de l'Europe », mais il joue sur le mot « fin », c'est aussi la finalité de l'Europe. Hein. Puis c'est aussi les limites de l'Europe. Hein. Et de Housse dit ceci, « Les États tiennent une place centrale, ce qui distingue l'Union européenne d'un État fédéral. La France n'est pas l'équivalent du Texas. Hein. Ceux qui connaissent la manière dont sont organisés les États-Unis savent que ce n'est pas du tout la même chose. La troisième position, celle de Delors, la fédération d'États-nations. Il y a beaucoup de commentateurs qui font remarquer qu'elle ressemble un peu à un oxymore. Vous savez ce que c'est qu'un oxymore ? C'est une contradiction dans les termes. Hein. Si je vous dis un morceau de fer en bois, évidemment, c'est une contradiction dans les termes. L'idée d'une fédération d'États-nations qui ne serait pas pour autant, hein, qui ne serait pas pour autant un État, elle apparaît à beaucoup de gens assez peu claire. Hein, et d'une certaine manière, l'idée des purs fédéralistes, hein, de ceux qui voudraient des États-Unis d'Europe, est beaucoup plus claire, même si elle est peut-être beaucoup plus irréaliste. Hein. Et puis, il y a la quatrième solution. Je crois que la quatrième solution, elle laisse quand même un peu sceptique, hein, beaucoup de gens. En tout cas, elle est refusée par des majorités immenses en Europe, hein, soit parce qu'ils la trouvent trop utopique, inoffensive, hein, utopique et inoffensive. Bon, on peut se déclarer citoyen du monde. Hein. Bon, si ça vous fait plaisir de vous déclarer citoyen du monde, mais c'est une position idéaliste, c'est une position sympathique. Hein, mais vous n'êtes pas citoyen du monde, hein, puisque vous n'avez pas de pouvoir. Alors, je répète, le jour où il y aura un Parlement mondial, et vous élirez des gens au Parlement mondial, vous serez citoyen du monde. Pour l'instant, ça veut dire simplement citoyen du monde, que vous vous intéressez aux affaires mondiales. Ça fait partie un peu du sens large, hein, de ce sens un peu dilué du mot de citoyen dont j'avais parlé. Et puis, il y a d'autres gens qui pensent, hein, vous le savez, que citoyen, que la quatrième position est dangereuse. Est dangereuse parce qu'elle pourrait faire naître, hein, si on décide, de, par exemple, que tous les immigrés votent à toutes les élections en France, bah regardez ce qui se passe au Danemark, hein, en ce moment, regardez ce qui se passe en Hollande, hein, ça pourrait faire naître des mouvements nationalistes, et quand je dis nationalistes, j'emploie un terme modéré, hein, parce que ça pourrait être des mouvements fascisants, des mouvements extrêmement violents. Regardez même en France, hein, une mesure aussi limitée, et peut-être très intéressante, hein, je ne suis pas contre, hein, mais une mesure comme de faire voter les immigrés extra-européens aux municipales est une mesure qui est en débat, hein, à l'intérieur des partis, entre les partis. Bon, pour l'instant, nous n'en sommes pas là. Voilà ce que je voulais dire. Donc, il me semble, donc, tout compte fait, pour prendre position, hein, que la première position, mais vous allez voir, à condition d'ajouter quelque chose, hein, la première position me paraît la plus réaliste, la moins utopique, et qu'elle est acceptable, mais à la condition, et vraiment à la condition, d'insister fortement sur le fait que l'Union européenne doit devenir beaucoup plus démocratique qu'elle n'est. Hein. Et je crois qu'elle peut le devenir sans devenir un super-État, sans devenir un État fédéral, donc en restant ce qu'elle est, c'est-à-dire hein, une union où les différents États souverains partagent leur souveraineté tout en restant indépendants. Hein. Et dans cette perspective, l'Union européenne, si vous voulez, c'est une union politique, c'est une formation politique post-nationaliste. Elle met fin au nationalisme, avec tout ce que ça peut supposer de conséquences négatives, la guerre, etc. Mais ce n'est pas une formation politique post-nationale ou post-étatique. Hein. Et cela n'interdit pas de considérer hein, que l'Union européenne réalise ce que Jean Monnet, vous savez, un des grands fondateurs de l'Europe, hein, appelait la fusion des intérêts. Hein. Il l'opposait à l'équilibre des intérêts. Il disait l'Europe réalise une véritable fusion des intérêts. Il disait que l'intérêt européen est supérieur à la somme des intérêts nationaux. Mais je voudrais terminer en disant que dans un tel cadre, hein, la citoyenneté européenne, au sens strict, ben, elle restera à peu près ce qu'elle est. Hein. Elle restera à peu près ce qu'elle est. Elle peut s'agrandir. Il peut y avoir de nouveaux droits. D'ailleurs, hein, la jurisprudence hein, de la Cour de justice européenne, tous les jours, élargit un petit peu ses droits. Hein, les juristes le font remarquer. Mais en gros, elle restera dans le cadre actuel, ce qui n'empêchera pas, hein, ce qui n'empêchera pas évidemment, une extension des pouvoirs des citoyens. Alors, au-delà, je crois que l'avenir dira hein, si les citoyens d'Europe arrivent ou non à se penser comme des citoyens européens, c'est-à-dire les citoyens d'un seul peuple. Je signale simplement hein, qu'on sait qu'on peut être un seul peuple tout en ayant plusieurs langues, hein, je l'ai dit tout à l'heure, vous voyez la Suisse ou l'Allemagne, hein, tout en ayant des cultures diverses. Hein, vous voyez par exemple le multiculturalisme canadien, hein, où il y a une culture francophone et puis une culture anglophone. Hein. Mais le problème de savoir si on peut être un seul peuple quand on parle de très nombreuses langues, hein, quand on comprend des cultures aussi différentes que celles des Suédois et des Portugais. Hein. Pour prendre un exemple plus actuel, puisqu'il y a une polémique entre ces deux pays, entre les Allemands et les Grecs, hein. Et je crois qu'il y a deux réponses. Il y a une réponse optimiste, et je terminerai par là, qui consiste à dire oui, l'Europe est en construction, on va progressivement vers un seul peuple. L'élection au Parlement européen au suffrage direct contribue à la construction, ainsi que les autres mesures qui favorise la participation des citoyens, la construction des États-Unis d'Europe. Et puis une réponse plus réaliste, qui serait plutôt la mienne, qui consiste à dire que ce peuple européen n'existe pas, qu'il n'existera pas, que les peuples européens sont et restent multiples, même si les échanges sont de plus en plus nombreux, même s'ils font apparaître de plus en plus d'intérêts communs, même s'ils font apparaître un sentiment d'appartenance, hein, j'espère que vous vous sentez profondément européen, et pas seulement marmandais, français ou aquitain, hein, mais donc on restera dans une union d'États souverains, mais que cela n'empêche pas de rendre l'Europe la plus démocratique possible. Et ce n'est pas facile. Hein. Vous avez vu que ce n'est pas facile parce que c'est une construction complexe. Hein. Je terminerai par là. C'est une construction tellement complexe que beaucoup d'Européens ont du mal à la saisir. Hein. Beaucoup du mal. Vous avez vu comment il y a eu peu de gens qui ont voté aux élections européennes. Bon, entre parenthèses, hein, c'est pas le propre de l'Europe, hein, parce que il y a des pays, la France en particulier, où déjà les citoyens ont du mal à comprendre l'État français, et même la région, puisque vous avez vu qu'aux dernières élections, il y a eu dimanche dernier très peu de votants. Hein. Donc c'est un problème dans tous les pays démocratiques hein, de savoir comment mobiliser les citoyens. Et si c'est un problème au niveau de la région, et si c'est un problème au niveau de la France, c'est évidemment encore plus un problème au niveau européen, étant donné le caractère très particulier, étant donné le caractère de démocratie largement indirecte, hein, plus indirecte que la démocratie française, du fait que l'Union européenne n'est pas un État fédéral, mais est une union d'États souverains, et ce qui explique que vous avez une citoyenneté européenne, tout en gardant la citoyenneté française, et parce que vous avez la citoyenneté française, hein, que cette citoyenneté européenne est relativement limitée, quelques droits pour l'instant, hein, mais qu'en même temps, ça n'empêche pas que vous ayez de plus en plus de pouvoir. J'espère que votre génération les développera, non seulement les utilisera, mais les développera. Voilà, c'est parfait, ça tombe juste au moment où je termine. Donc, je vous remercie de votre attention, et nous allons pouvoir débattre de tout cela. Merci beaucoup.